Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Alex.
Salut Charline. Oh,
c'est passionnant quand même la politique. Hein.
Ah bah ouais, mais c'est pour ça qu'on en parle tous les jours.
Oh, la politique, c'est la vie.
Enfin, il y a d'autres choses dans la vie. Hein.
Ça me fait tellement plaisir d'en parler avec notre invité, Olivier Duhamel. Il est politologue. Mon rêve.
Tu veux que je t'arrange le cou?
Non. Tu sais, moi, la politique, je l'ai là, chevillée au corps.
Ouais, chevillée au corps. Tu veux que je t'arrange le cou, quoi?
Non, c'est pas ça. Dans son livre, Olivier Duhamel, il dresse le portrait de la vie politique française de la deuxième moitié du XXe siècle. Ça me replonge dedans. Troisième République, Quatrième République, Cinquième République.
Sixième République. Hein? Ah bah non, pas encore.
Ça fait tellement partie de notre histoire.
C'est l'histoire ancienne, hein, quand même.
Jacques Duhamel, le père d'Olivier, tu connais pas?
Bah si, on parle dans le roman. Enfin, moi, ça me parlait pas trop, mais...
Mais si, député du Jura, ministre sous Pompidou, compagnon de Chaban.
Chaban.
Mais Chaban Delmas.
Ah, ils sont deux.
Oh, mais Alex, rappelle-toi, il avait fait un score exceptionnel aux législatives de 62. Il a été réélu en 67, en 68, puis en 73.
Oui, bah, les législatives de 62, évidemment.
Je m'en souviens comme si c'était hier.
T'étais même pas né, il semble.
Et Mendès, et Edgar Faure, le premier gouvernement Mesmer, que de bons souvenirs.
Mesmer, l'hypnotiseur.
D'une certaine manière.
Ah, bah lui, je connais. Et sinon, Bruno Bellone, tu connais?
Ah non? Ah, quel parti? UDR, c'était un sous-secrétaire d'État.
Non, c'est un avant-gauche, champion de France en 82 avec l'AS Monaco.
Ah bon?
Moi aussi, je connais des trucs.
Bonjour la France Inter, vous écoutez une émission du service public, une émission qui crée de la dette. Et voici les trois informations qui vont faire chuter le PIB de la France. La gauche française est éparpillée et pourtant la plupart des candidats disent la même chose. Pour une Europe sociale, contre l'austérité. C'est comme monter un groupe polyphonique avec des chanteurs qui veulent tous rester en solo, comme Hamon et Jadot par exemple.
T'es ridicule, tu veux que je te dise, j'ai jamais pu blairer ta sale gueule. Jamais pu.
Le grand débat a fait ressurgir l'idée du tirage au sort pour assurer une meilleure représentation de la diversité de l'électorat.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Sachez que le dernier chic chez les mannequins, c'est de sortir un livre à la main et la couverture, si possible, assortie aux chaussures. Le livre est ainsi transformé en accessoire de mode et c'est validé par Nabila.
Tu viens de finir ce livre, mais tu ne sais pas lire. J'espère au moins que tu as aimé les photos.
Lui, il se balade avec un exemplaire de Presse-Océan sous le bras, c'est là qu'il puisse ses brèves. Bonjour Alex Vizorek.
Bonjour Charline Manonacker. Eh bien, belle équipe en ce vendredi. À 17h20, celui qui explique extrêmement bien l'actu pour quelqu'un qui ne la comprend pas lui-même, c'est Thomas VDB, bonjour.
Bonjour, vous ne croyez pas si bien dire Alex, car aujourd'hui je vais vous parler du trou noir qui on a découvert, qui est loin, à au moins 45 kilomètres dans la galaxie. Et je vais tout vous expliquer
sur
en détail.
Sur la 16, pareil.
Je pense qu'on va apprendre des choses. À 17h30, elle qui a presque ressuscité autant de morts que Jean Tiberi. C'est Christine Gonzalez, bonjour.
Bonjour, Daniel Balavoine se prend pour PNL, paraît-il. Il nous ouvre même les portes de son studio dans l'au-delà.
Je suis en train, en fait, de travailler, c'est-à-dire à ma façon, j'ai plutôt à une autre façon. Je vous explique pourquoi, parce que...
Non, vous nous expliquerez ça tout à l'heure.
Daniel Balavoine sera donc là. À 17h40, notre chroniqueuse littéraire, qui d'ailleurs adore offrir ses livres une fois qu'elle les a lus. Heureusement donc qu'elle ne fait pas une chronique sous vêtements. C'est Juliette Arnaud, bonjour.
Oui, mais alors aujourd'hui, regardez, je me prends pour un mannequin.
Oui.
J'ai sorti le livre du jour à mes chaussures.
Bien joué, on est dans le thème. Et le livre du jour, c'est celui de notre invité. Et à 17h55, vous saviez combien je déteste les guitaristes. Je considère que c'est une sale race. Eh bien, sachez que Frédéric Fromet a réussi à m'en amener un deuxième. Il vient avec un collègue, grosse surprise en fin d'émission, j'en dis pas plus.
Et voici celui qui va élever notre open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Olivier Duhamel tombé dans cette galère.
France Inter. Charlie Vanhoenacker.
Trop tard.
Alex Vizorek.
Bouclez toutes les issues. On vous tient, Olivier Duhamel. Merci d'être avec nous. Vous publiez un très joli accessoire de mode intitulé Colette et Jacques, paru chez Plon. Olivier Duhamel, un roman. Vous êtes constitutionnaliste, politologue, professeur aussi à Sciences Po. Alex Vizorek, je vous laisse vous pencher sur Colette et Jacques.
Colette et Jacques, c'est votre premier roman, alors que vous avez écrit plus d'une trentaine de livres politiques.
Trop, oui.
Alors trop, j'en sais rien.
Trentaine, c'est trop.
Se laisse seul juge. Cette collecte et ce Jacques, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont vos parents. Vous avez envie de les raconter tout en racontant l'histoire politique de la deuxième moitié du XXe siècle. Comment ça se fait que vous aviez attendu si longtemps avant de passer à un roman?
Alors, c'est plutôt comment est-ce que vous avez osé passer un roman, la question, parce que...
Ça aurait été provocateur de ma part.
Parce que j'ai...
Vous regrettez?
Non. Ah non, je regrette pas, mais j'avais trop de respect pour le roman. Peut-être aussi trop peu de culture littéraire, parce que j'ai tellement été obligé de lire et de lire et de lire des essais, des manuels, des copies, des journaux et tout, que quand vous vous êtes obligé de lire, vos yeux s'épuisent et le temps disponible pour le roman se rétrécit beaucoup. Et donc, non, ça me complexait beaucoup.
Et peut-être vous ne vouliez pas qu'il le lise, cette histoire-là?
Maintenant, je regrette qu'il ne le lise pas. Parce que, enfin, évidemment, il y a des gens qui croient qu'il le lise là-haut, mais j'en suis malheureusement pas. Non, ce qui a été absolument jouissif, je vais vous dire, et le mot n'est pas trop, c'est imaginer que vous avez passé 40 ans de votre vie à beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire des choses toujours contraintes par l'exactitude. La seule liberté, elle était sur les idées. Mais dès que vous donniez des faits, des dates, des lieux, des citations, tout devait être vrai. Et tout d'un coup, vous avez le droit d'inventer. Ah, le pied, mais c'est génial. C'est la conquête d'une liberté à mon vieil âge, c'est sublime.
Mais la part d'invention, oui. Parce que vous appelez ça roman, à oui. La fin vous appelez ça roman vrai, oui. C'est pas loin d'une biographie.
Oui.
La part d'invention, elle est où?
Il y a une histoire que j'adore, c'est qu'au début je raconte la première histoire d'amour de mon père avec une secrétaire à Sciences Po, qui d'ailleurs du coup va se faire virer.
Et en fait, c'est la vôtre.
mon petit frère me dit « Oh la vache, je savais pas ». Et puis quelqu'un qui travaille avec moi et qui est historienne à Sciences Po est allé chercher dans les archives les Martines de l'époque et me raconte aussi ça. J'ai dit « Mais vous rigolez, cette histoire est intégralement inventée ». Donc par exemple, plus sérieusement, je ne connaissais pas, je sais que mon père était résistant, je sais qu'il était dans un groupe de résistants et je ne savais qu'une chose, c'est qu'il se réunissait dans une épicerie à Montmartre et que l'épicière s'appelait Madame Pierson. Pourquoi je savais ça? Parce que quand j'étais gosse, tous les jours avant Noël, arrivait une grosse dame à la maison avec un panier plein de charcuterie. Alors la troisième année, je dis à mon père, mais c'est qui cette dame qui vient tout le temps? Il me dit, c'est l'épicière chez qui se réunissait notre groupe de résistants. C'est à peu près les seules choses qu'il m'a raconté de la guerre. Donc j'ai été obligé d'inventer le reste.
Donc c'était pour combler un peu les vides.
Si vous voulez me faire plaisir dans la liberté de l'écriture, comblez les vides. Oui.
Alors il y a toutefois un truc quand même assez romanesque, c'est-à-dire que tout le monde y
est. Où va venir là?
J'espère bien. Vous allez m'expliquer pourquoi. Vos grands-parents sont dedans, vos parents sont dedans, ouais. Vos frères sont dedans. Ouais. Et puis avec Juliette, on s'est fait qu'une petite remarque.
Bah, c'est-à-dire que Wikipédia raconte beaucoup plus d'âneries que ce que j'imaginais. Ou dans la famille Duhamel, il n'y a pas de fille qui s'appelle Marie et qui serait née un 2 mai 1950. Le 2 mai 1950, il y a un Olivier Duhamel qui se tient sur ma gauche. Alors, pourquoi est-ce que vous faites passer pour Marie?
Alors, il y a deux raisons. Il y a ma raison, c'était que je voulais me mettre à distance. Je voulais pas que l'auteur soit présent et même je voulais pas, moi, me méfiant de mon narcissisme moindre que ce que disent mes amis, mais néanmoins conséquent. Et donc, c'était une mise à distance qui me rendait service. Et puis, alors, il y a une deuxième interprétation qui a été faite par un de vos collègues, Jean Birnbaum, qui dirige Le Monde des Livres,
oui.
Et qui considère que, comme j'explique dans le livre, que mon père voulait absolument avoir une fille et qu'il n'avait jamais eu de fille et que donc sa préférée aurait été une fille, c'était pour que je sois la préférée de mon père.
Oui, ou alors pour pas appeler votre roman le fils préféré.
Ah oui, oui, par exemple.
C'était l'explication freudienne.
Oh, exactement.
Donc tout est, malgré tout, il y a plein de choses vraies, évidemment.
Ah bah oui.
Et notamment l'effet historique.
Tous.
Ça vous a amusé, ça, de vous replonger justement dans cette époque, dans celle qu'on a un peu caricaturée dans la conf de rédac de début?
Alors, d'une part, ça m'intéresse. D'autre part, c'est quand même la chose dans l'écriture de ce livre où mon savoir me servait. Quoi. Et tout d'un coup, quand vous avez aussi passé, c'est toujours pareil, il faut regarder ça par rapport à ce qu'on a fait avant. Quand vous avez passé des années à faire des cours dans lesquels vous expliquez aux étudiants ce que c'était que la 4ème République, enfin pas à ceux qui peuvent rien comprendre comme vous, évidemment.
Merci Olivier, j'ai très touché.
C'est plutôt moi ça qui
bon, mais vous avez enseigné, expliqué les choses d'une manière académique, même si vous étiez un prof plutôt vivant, il y a tout ça, quand même. Bon, le reprendre le même sujet, mais le faire découvrir par la voix romanesque, c'est totalement différent. Et là aussi, c'est plutôt assez agréable à faire.
Eh bien, agréable à lire également.
Colette et Jacques, paru chez Plon. Juliette Arnaud va y revenir tout à l'heure dans sa chronique. En attendant, musique. Vous êtes sur France Inter. The Liminianas, c'est dans la playlist. Je ne suis pas très drogue, nous disent-ils.
C'est quoi ton nom?
Nicole Princess.
T'as quel âge?
Qu'est-ce que ça peut te faire?
Tu veux un cachou?
Non merci, je ne suis pas très pauvre. J'ai fumé du pot, c'est marrant mais ça rend pas causant. C'est comme l'op, tu sais.
Non, je sais pas.
J'ai tâté du kiff aussi. Bof, il y a toujours ces hippies, je dors pas. Ils sont là à traîner, ils sentent vraiment mauvais. Moi, je vis dans un monde vert et mauve toute la journée. Quand j'ouvre les yeux, c'est...
Tu veux un cachou?
Non, merci, je ne suis pas très drogue. Avec mon chien Otis, je le sors le matin, on vole tous les deux jusqu'à la plage, c'est super bon. Je reste assise sur le sable une heure ou deux avec tous mes copains, ceux dans ma tête et ceux de la plage. De temps en temps, on branche un tourne-disque, et là sur la plage, on danse. On danse le jerk, tu sais, le jerk dans la lumière, jusqu'au petit matin et les couleurs explosent.
Un cachou.
Non merci, je ne suis pas très drôle. Là sur la plage, quand le vinyle crépite sur la platine, ça fait... Si j'ai choisi mon château bleu, je twiste en regardant le ciel et la tête dans les étoiles, je ferme les yeux. La lune est mauve et les reflets sur la mer sont merveilleux, tu sais. Et puis la fuzz explose en mille petits morceaux d'étoiles. Je sens qu'il est temps et je rentre me coucher.
Tu devrais prendre un cachou, tu sais.
Non merci, je ne suis pas très drôle.
Par Jupiter, vous écoutez France Inter, il est 17h20, il est aussi 17h20 sur Europe 1. C'est la radio c'est où travaille notre invité, ouais, Olivier Duhamel.
Vous allez arranger mes affaires avec ce qui m'emploie.
Mais pour l'instant, il est chez nous, Olivier Duhamel, pour son roman Colette et Jacques, paru chez Plon, et pour entourer Olivier Duhamel.
Eh bien, sachez qu'il y a Thomas VDB qui est encore en train de peaufiner, donc ça va être énorme, sa chronique sur les trous noirs.
Vous rigolez, il dort depuis 5 minutes.
J'ai mis au pyjama.
C'est ce qu'il appelle peaufiner. Christine Gonzalez parlera avec Daniel Balavoine et Juliette Arnaud du livre de notre invité.
Olivier, nous faisons un journal chaque jour. Attention, accrochez-vous.
Vous êtes déçus.
J'ai vu une grosse bête. Le journal de presque 17h17.
Je suis pas une vieille bête de foire de la politique politicienne.
Et on commence par les titres.
Jean-Luc Mélenchon a voté par erreur pour la loi Pacte, qu'il a pourtant farouchement combattu. Il s'agit bien sûr d'une erreur technique, a précisé son entourage.
Il s'est trompé de bouton au moment de voter, quand je pense qu'à 600 000 voix près, il avait la responsabilité du bouton atomique.
Jean-Marie Le Pen a été condamné hier à 1 500 € d'amende pour détention illégale d'armes et notamment un LBD.
Preuve que décidément, il ne tire aucune leçon de l'histoire. Quand t'as déjà perdu un œil, c'est pas malin d'avoir un LBD chez toi.
Tu auras des brèves.
Eh oui, parce que je n'ai pas été condamné pour détention illégale de brèves.
Ah bah ça, parce que j'ai pas encore porté plainte. Et on commence par la loi anti-casseurs.
Oui, partiellement censurée début avril par le Conseil constitutionnel, elle a été promulguée au Journal officiel hier, donc maintenant il est interdit de...
Casser.
Et ouais, ça veut donc dire qu'on ne pourra plus voir un Brise de Nice 4 en France.
C'est un petit peu la bonne nouvelle quand même.
C'est
hein,
la bonne nouvelle effectivement de cette loi. Passons au recrutement de Raphaël Le Rabatel à la Française des Jus.
Oui, parce que c'est la Française des Jeux, hein, parce que la Française des Jus, c'est un autre
J'ai
truc,
dit la Française
non
des Jeux, non.
Ah non, il a dit des Jus.
La Française des Jus, mais on peut la créer.
Je vois très bien que ça n'existe pas, la Française des Jus.
Mais parlons-en de Raphaël Rabatel, donc parce que c'est l'épouse du patron des députés La République En Marche, Gilles Legendre.
Bah, et alors, qu'est-ce que vous vous reprochez, Gilles Legendre, dans ce parachutage?
Moi y compris, je ne me pose pas en censeur. C'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique.
Et oui, il a encore été trop intelligent, on peut pas comprendre.
Le Parlement a adopté définitivement la loi Pacte et le projet de privatisation d'Aéroports de Paris.
Et oui, c'est fou de se dire que la prochaine fois que Booba et Caris se battront à Orly, ce sera dans un cadre privé.
International à présent, c'est West France qui a révélé hier que le sultan de Brunei, qui a instauré la charia la plus stricte dans son pays, comprenant la mort par lapidation pour punir les homosexuels et l'adultère, eh bien le sultan de Brunei a été nommé Grand Croix de la Légion d'honneur en 97.
Mais ouais, c'est du propre, c'est du propre. Il faudrait peut-être vérifier si Nordal Lelandais ne l'a pas été aussi.
Ça l'époque. Vous a surpris ça,
bah, moi, rien ne me surprend plus depuis qu'Emmanuel Macron a été désigné champion de la Terre.
Européenne, à présent, un descendant de Mussolini sera candidat en Italie.
Il n'y a pas de quoi la ramener en France. Une descendante de Jean-Marie Le Pen est candidate aussi.
Faux. People, toujours. Oui. Gad Elmaleh obtient de la justice que Facebook dévoile l'identité de copie comique qu'il accuse de plagiat depuis plusieurs mois.
Et oui, pour le coup, c'est tellement pas drôle comme attitude que c'est sans doute une idée de lui.
Radio, à présent.
Oui. Mediapart révèle que sur Europe 1, Nicolas Canteloup est payé 150 755 euros par mois pour ses chroniques.
Qu'est-ce que c'était ça?
Ah, c'est Nagui qui vient de faire un AVC.
Ah oui, je comprends, hein, 150 755.
Ouais, donc Nicolas Canteloup a bientôt plus d'euros par mois que d'auditeurs.
Effectivement, et des brèves.
Mais c'est pas gentil, autant pour moi. Toulouse, un lance-roquette découvert chez un adolescent de 15 ans. Tu m'étonnes que les cartables sont de plus en plus lourds.
La dernière?
Et ouais, selon une enquête, la moitié des Français estiment que le deuil n'est pas limité dans le temps. Et moi, je pense au contraire que le deuil est limité dans le temps à 4 ans, exactement, c'est sûr.
4 ans, c'est précis.
Oui, c'est le laps qui nous sépare de la prochaine Coupe du Monde. Qui effacera ce deuil que nous avons connu en demi-finale contre la France.
Il a le seum.
J'ai le seum, oui, j'ai un peu le seum.
Olivier Duhamel est en notre compagnie. On va parler avec le constitutionnaliste et le petitologue maintenant.
Petitologue.
Y a... petitologue. Ouais,
la française des juges.
C'est vendredi.
Ben ça va, Charlotte.
Bon, Marie Duhamel. Il y a autant de candidats de gauche aux européennes que de sortes de fromage. Et pourtant, quand ils s'expriment, ils disent quasiment tous la même chose. Et ça, c'est un petit peu vu jeudi, quand 10 têtes de liste ont abordé leur vision de l'Europe sociale. 5 candidats ont prononcé les mêmes phrases et portent les mêmes valeurs, mais chacun de son côté. Alors que voici le fantasme de la gauche.
Chacun son pain. Chacun fait son beurre, on ne partage rien, à part sa mauvaise humeur, mais il faudra bien oublier nos peurs, si on veut un monde meilleur, il faut s'y mettre à plusieurs, ensemble, en plus, en plus, en plus.
Jadot, plus Hamon, plus Glucksmann, c'est Sinclair. Alors, Olivier Duhamel, je rappelle que vous avez été député européen.
Personne n'est parfait.
Socialiste.
Encore bon. plus vrai.
Mais c'était une belle époque, c'était, oui, l'époque c'était 94. Oui, voilà.
Enfin, alors, pour être précis avec vous une seconde, en 94 j'étais sur la liste Rocard, d'ailleurs, comme supposé société civile, et j'ai été battu à cause de Mitterrand, mais je suis devenu député en 97 grâce à Chirac. Ah. J'ai expliqué ça à mes étudiants. C'est intéressant la politique. Oui, parce que Mitterrand avait balancé une liste tapis qui a ratatiné la liste Rocard. Zouk, j'étais juste derrière les élus. Et en 97, Chirac se plante à la dissolution. Ouais. Et donc Lang, Guigou, Kouchner, ils deviennent tous ministres. Et zouk, les suivants de liste deviennent députés européens. Battus par Mitterrand, élus par Chirac. Pas mal, hein.
Mais c'est comique la politique française. Voilà. Quand même. Le nombre de listes de gauche est déjà un peu ridicule vu le nombre de candidats qu'il y a. Mais en plus, ils s'expriment sur la même scène et qu'ils disent tous la même chose. Ma première question, Olivier Duhamel, c'est est-ce qu'en ce moment, la gauche, elle n'a pas l'air carrément nouille?
La réponse est dans la question. Question suivante.
C'est une habitude dans l'émission.
Souvent,
ah ouais.
Très souvent.
Donc il ne faut pas dire ça.
Si, vous l'avez bien repéré.
Vous l'avez repéré, je me suis fait attraper. Quelle est votre observation, votre constat, votre analyse aujourd'hui?
Votre déception.
Sur l'élection européenne?
Sur le fait que la gauche aille mais dispersée comme jamais. Parce qu'à chaque fois, il y a un cran supplémentaire qui est franchi quand même.
Bah, je dirais que on parle de l'individualisation de la société. Vous avez dit au début que j'allais élever le niveau de votre émission.
Ouais.
Je parle donc de l'individualisation de la société. Ouais. Eh bien, c'est une trace de ça dans l'univers politique. C'est-à-dire que c'est, d'une part, c'est le chacun pour soi, et à l'intérieur du chacun pour soi, c'est moi, moi, moi. Mmh. Et c'est la raison principale pour laquelle les regroupements sont impossibles. C'est même pas du désaccord idéologique. Au moins, les divisions de la droite, elles correspondent vraiment à des désaccords idéologiques entre la ligne Wauquiez, disons qu'il faut aller sur les thématiques du Front National, et puis la ligne Pécresse, par exemple, en aucun cas. Donc c'est pas que de bataille d'égo. Il y a des batailles bataille d'idées.
Ouais. La ligne Pécresse, c'est doubler les toilettes dans le métro, par exemple.
Voilà. Oui, je vois que vous voyez dans la politique ce qu'il y a de plus haut. tandis que à gauche, oui, il n'y a pas entre Hamon, Jadot, Olivier Faure, c'est comme ça qu'il s'appelle ?
Oui, non, c'est le secrétaire Maurice
Faure. Oui.
Non, Maurice Faure, c'était un homme politique.
Je le vois. Il y a aussi Yann Brossat du PCF, qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui est là.
Vous avez vu les affiches du PC ?
Ah non, j'ai pas vu moi.
Ah, c'est génialissime. Il faut regarder toutes les affiches du PC dans l'histoire qui sont les luttes, l'international. Et là, les affiches du PC, c'est pour un monde plus humain. Oh. Ah non, c'est vachement audacieux.
On les sent apaisés. Mais est-ce que les luttes fratricides du référendum de 2005, elles laissent encore des traces aujourd'hui ? Ou ça, c'est déjà l'histoire ancienne, à gauche ?
Au sein de la gauche, pas tellement, finalement. Parce que les désaccords se font pas. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez nous le dire tout à l'heure.
Christine Gonzalez.
Cher Christine Gonzalez, oui. J'ai un trou de mémoire, excusez-moi, à force d'écouter Europe 1.
vous êtes pardonné.
Ah non, mais vous l'avez cherché tout à l'heure. Hein. C'est vrai qu'ils disent et même qu'ils pensent la même chose, mais dans le fond, leur enjeu n'est pas européen, leur enjeu... Et les médias, quelle est la seule chose que les médias regardent sur cette résultat ? Le seul truc, qui va arriver premier entre Rassemblement National et La République En Marche ? Et est-ce qu'on peut m'expliquer, qu'est-ce que ça change ? D'abord, pour l'Europe, si République En Marche arrive avec 2 points de plus ou 2 points de moins que le Rassemblement National, et j'ajouterais même, qu'est-ce que ça change en France ? En vérité, pas grand-chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on se polarise là-dessus ? Parce que l'Europe, c'est compliqué, les médias, ça les emmerde, ils ont décrété que ça emmerdait les Français, ce qui est quand même excessif, parce qu'il y a parfois des manières d'en parler qui n'emmerdent pas, c'est donc le diable qui se mord la queue. Et donc, ils ont essayé de trouver un truc visible, qui veuille dire quelque chose, où on peut pendant toute la campagne dire « Ah, ça n'est pas
quelque chose bon. De feuilletonnant, pour tenir machin, voilà. Ouais.
Mais ça n'a aucun intérêt. Quoi.
Donc... Mais justement, si toutes ces listes de gauche étaient ensemble, il y aurait 3 forces en présence.
Bien sûr.
Et
donc vous pourriez complexifier le tour en disant lequel des 3 arrivera premier, mais ce ne serait pas plus intéressant non plus.
À un moment, il faut quand même que les gens aillent voter et puissent assumer leur choix idéologique.
Mais donc il faut essayer un tout petit peu de parler du fond et de pourquoi ces élections européennes sont plus importantes que les autres. Pourquoi c'est la première fois qu'il n'y aura pas des majorités automatiques faites par les deux grands partis parce qu'ils n'auront pas les moyens de le faire, que donc les voix comptent plus que d'habitude, que au moment du Brexit, au moment où il y a des États populistes qui veulent plus tellement jouer des majorités populistes dans tel et tel État, qui veulent plus tellement jouer la carte européenne, il est important, si on est d'accord et nationaliste avec eux, de les renforcer, si on est d'accord qu'au contraire on a besoin dans beaucoup de sujets de l'Europe de les contrer, bref, des choses sérieuses, importantes à dire, qui ne sont pas forcément ni inaudibles, ni emmerdante comme la pluie.
Et importante à rappeler. Merci.
Donc chaque voix
Olivier
compte.
Duhamel.
Allez voter.
C'était la toute petite partie. Essayez de...
On va maintenir le niveau, Olivier Duhamel. Ne vous inquiétez pas, car voici venu le moment de Thomas VDB.
Exactement. Bonjour et voilà, suivez-moi puisque je vous emmène dès maintenant dans l'espace intersidéral. Regardez-le. Le voilà. Il est là. C'est lui. C'est le trou noir. Très très loin. Très très loin dans l'espace, trou noir. Tu ressembles un peu à un donut, trou noir. Dis oui, Stiti, on te prend en photo. Trou noir. Ah mais il faut savoir que ça bosse, il y en a qui écrivent des livres pendant ce temps-là, il y en a qui bossent le générique.
Et voilà. Quand il se réveille, il se réveille.
Ah bah oui, mais je m'économise, tout simplement. Et effectivement, on n'arrive pas bien à le voir sur la photo, mais apparemment, au moment où il a été photographié, il semblerait que le trou noir aurait dit « Wistiti ». Et c'est un événement exceptionnel, c'est une découverte extraordinaire. On a réussi à apporter la preuve de l'existence du truc le plus mystérieux du monde, parce qu'on sait que les trous noirs, ça existe depuis qu'Einstein l'a dit, mais pourtant, on les avait jamais vus. Voilà, on sait qu'ils sont là, mais on ne les voit pas. C'est un peu comme les reptiliens, comme les Illuminati, ou certains agents de la Poste, disons à partir de 15h30, environ, quand même, voilà. Et c'est donc une femme, Cathy Bowman, qui a permis, alors au terme de plusieurs années de travail avec plein de chercheurs équipés de nombreux appareils techniques, de reconstituer l'image de ce trou noir. Il y a une photo d'elle hyper émue devant son ordi qui circule sur Internet. Bon, malheureusement, c'est pas un selfie. Bon, j'aurais préféré que ce soit un selfie, parce que j'adore les selfies, mais c'est pas grave. Je trouve ça excellent, les selfies. Et donc, voilà. Et donc, beaucoup de gens, naturellement, les yeux d'Olivier Duhamel qui me regardent.
Je cherche le lien, c'est tout.
Bah non, la passion, elle est pas la passion du selfie, c'est tout, voilà. Non, et voilà, donc aujourd'hui, beaucoup de gens se réjouissent, bien sûr, du fait que ce soit une femme qui a permis de faire avancer la science. Et là, pardon, mais je voudrais quand même pas que ça fasse oublier le travail magnifique que font aussi les hommes. voilà, et pas que dans le milieu de la science, c'est vrai, pardon, mais Arnold Schwarzenegger, c'est un homme. Stallone, c'est un homme. Voilà. Donc j'aimerais que les filles mettent un peu de perspective dans tout ça. Les gens n'ont pas idée. Les gens n'ont pas idée du nombre d'avancées scientifiques que la découverte de ce trou noir va permettre. Et pour tout vous dire, moi non plus, je n'en ai aucune idée, absolument. Parce que je ne sais pas exactement pourquoi c'est une découverte révolutionnaire, mais beaucoup d'astrophysiciens sont formels, et eux, je peux vous dire qu'ils comprennent très très bien le bidule. Ils le disent, c'est une découverte hallucinante, ils sont ravis. Ce faisant, je décide de leur faire totalement confiance, et pour pouvoir être complètement content avec eux. Et je veux juste vous dire, savoir que c'est une découverte révolutionnaire, moi ça me suffit d'être super content. Yes, je suis vraiment très content. La photo prise par Cathy Bowman, donc c'est une reconstitution, parce qu'en fait, une des propriétés du trou noir, c'est d'être invisible. Il n'est donc pas photographiable. C'est un peu comme moi, dans une soirée après 1h du matin, je ne suis pas photographiable, c'est pareil. Et voilà, un trou noir, c'est invisible, ça aspire tout. Ça aspire tout, on ne sait pas où vont les choses. C'est un peu comme une sorte de paradis fiscal du cosmos. Et ça aspire tout, même la lumière, et c'est ça qui est hallucinant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, quand on dit d'une actrice qu'elle prend bien la lumière, un trou noir, lui, il absorbe la lumière. C'est-à-dire que vous mettez peut-être dans un casting un trou noir avec Isabelle Adjani et Catherine Deneuve, se font laminer par le trou noir. C'est lui qui a le rôle obligé, parce que lui, il gobe la lumière. Il gobe vraiment la lumière. Voilà, on ne sait pas où vont les choses, on ne sait pas non plus quand vont les choses exactement dans un trou noir, parce que plus on décide de s'enfoncer dans un trou noir, hein, ce qui est quand même une décision à la con d'ailleurs, il faut bien le dire, et plus le temps ralentit. Il n'y a pas la même temporalité dans un trou noir que sur la Terre. On est à une autre époque, ça se trouve peut-être, je sais pas, 800 km après le début du trou noir, on entend « Femme des années 80, les femmes jusqu'au bout des temps !» J'avoue que ce serait quand même assez étonnant, mais bon. Bah. Mais c'est possible, en fait, on ne peut pas savoir tout ça, parce que la seule chose qu'on sache véritablement de ce qui se passe dans un trou noir, une des seules choses de plus être sûre, c'est que c'est quand même un sacré fourbi. C'est un sacré fourbi. En tout cas, la preuve de l'existence des trous noirs a été apportée, c'est la réalité qui dépasse la fiction et qui dépasse même la science-fiction. Je ne sais pas si vous imaginez la pression que cette découverte va mettre sur les scénaristes de SF. Il y a des mecs qui écrivent des intrigues entières de science-fiction, de tarés qui se passent dans des mondes parallèles. À partir d'aujourd'hui, les gens ils vont les regarder, ils vont dire « Ouais, c'est pas mal, mais bon, c'est quand même moins bien que les vrais trous noirs. Hein, quand même, des vrais trous noirs, c'est un peu décevant du coup. » Voilà, donc beaucoup d'admiration quand même pour Cathy Bowman. C'est grâce à des gens comme elle qu'on peut savoir ce qui se passe précisément à 55 millions d'années-lumière de la Terre. Heureusement qu'il y a des gens comme ça quand même, on se dit, parce que s'il y avait des gens comme par exemple, je sais pas, Donald Trump ou Nicolas Dupont-Aignan, on dirait non seulement on ne sait pas ce qui se passe à des millions d'années-lumière, mais en plus on serait persuadé de trucs totalement faux qui se passent juste à côté de nous. Enfin, donc c'est quand même une très très bonne nouvelle. Merci.
Thomas VDB et sa première chronique scientifique.
Passionnant.
Merci Thomas VDB, merci. Qu'on peut revoir en vidéo bien sûr, sur notre page Facebook par exemple, ou sur franceinter.fr, pour le pull ça vaut le coup. Olivier Duhamel avec nous. Still in San Diego. You can hear a baby cry as the trains in New York City roll thunder down the line. Teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses headed home. And the Joes of Maricopa say a man. Morning in America, Duran Jones and The Indication. Parce qu'hier, j'ai dit The Raconteurs au lieu de The... Voilà, donc je dis The Indication. Sur France Inter, il est 17h38. C'est Olivier Duhamel qui nous accompagne jusqu'à 18h. Il publie son premier roman intitulé Colette et Jacques, paru chez Plon. Juliette Arnaud va y revenir dans quelques instants. Mais avant cela, écoutons Christine Gonzalez.
En une semaine, l'album de PNL est déjà disque de platine. C'est le meilleur démarrage du rap français de l'ère du streaming. Ouais.
C'est le moment de parler du succès de PNL. Ouais, vive le vocodeur. Ouais, Charlie, Tom, Thomas. Wesh, Juliette, Alex. Wesh, sur France Inter par Jupiter. T'écoutes ça, ouais. Sur France Inter par Jupiter. Ouais, grosse, t'écoutes ça, ouais. Écoute ça, ouais. T'as, ouais. C'est le moment de parler du succès de PNL. Ouais, vive le vocodeur.
Dans l'au-delà, PNL a aussi beaucoup de succès. Daniel Balavoine, comment allez-vous ?
Je me raccroche à la vie.
Comment vous occupez votre éternité ?
Je me saoule avec le bruit.
Oui, et vous, vous saoulez personne avec votre bruit ?
Moi, je dérange un peu tout le monde.
Donc, nous disions que PNL vous a grandement inspiré.
C'est du travail de musicien. Je trouve de musicien un peu profane en ce qui me concerne, mais c'est bien parce que je crois que si je connaissais tout seul, je m'ennuierais et ça m'intéresserait plus du tout.
Vous travaillez avec quoi ?
Le magnétophone.
Avec lequel vous enregistrez vos harmonies.
Je ne connais pas le nom des harmonies que je fais.
Donc, vous laissez faire les logiciels, autotune, vocodeur, voyons tout ça, quoi.
À vrai dire, pour moi, c'est pas important que ça s'appelle comme ça. Ce qui est important, c'est le son que ça a.
Montrez-nous le son que ça a, justement. Justement, comment vous faites concrètement ?
On cherche des arrangements. Je pense qu'on est en train de faire de l'exclusivité, là, c'est formidable.
Merci,
C'est un peu pour expliquer tout ça et pour dire simplement que c'est un état d'esprit. C'est pour ça que je fais confiance aux gens qui m'entourent. Et puis ça me rappelle ma jeunesse en plus. Ça me rappelle ma jeunesse en plus.
Et vos copains de l'au-delà, ils apprécient ?
Bon, il y a des gens qui ont fait « Oh, c'est vraiment formidable !»
Et vous comprenez pourquoi les jeunes adorent ça ?
Et c'est l'exemple type des choses que je sais pas, ça. Et c'est l'exemple type des choses que je sais pas, ça va, ça va, ça va.
Est-ce qu'on pourrait avoir une conversation normale?
Est-ce qu'on pourrait avoir une conversation normale?
J'hallucine, je peux pas faire ma chronique tranquille. Daniel Balavoine, est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît ?
Non.
Mais pitié, mais SOS, quoi.
Tous les cris, SOS,
On sent les limites du système. Enfin, le prenez pas mal, mais je vous préfère à l'époque.
Bâtard.
Pardon ? Vous m'avez traité de bâtard ?
J'ai bien dit bâtard.
Ah oui, d'accord. Donc PNL a une super influence sur vous.
Ça veut pas dire pour autant qu'on soit pas respectable.
Bon, en tout cas, je vois que tout va pour vous et c'est à peu près tout ce qui compte.
La preuve, je suis encore là, je peux encore parler, je peux encore dire des choses et je dis ce que j'ai à dire sur le ton que je veux.
Sur le ton que tu veux,
Sur le ton que je veux.
Ok, j'ai compris.
Je dis ce que j'ai à dire sur le ton que je veux.
C'est bon de conclure.
Sur le ton que je veux.
Sur le ton que tu veux.
Je dis ce que j'ai à dire sur le ton que je veux.
Sur le ton que tu veux.
Sur le ton que je veux.
Ok, j'ai compris.
Je dis ce que j'ai à dire sur le ton que je veux.
C'est bon de conclure.
Sur le ton que je veux.
Sur le ton que tu veux.
Je dis ce que j'ai à dire sur le ton que je veux.
Belle soirée par Jupiter sur France Inter.
Christine Gonzalez, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Belle carrière qui s'ouvre à vous, là.
De la RTS avec les archives de l'INA.
Absolument.
Oui.
Il y a un peu de vocodeur.
Oui, bien sûr. INA et vocodeur. Et oui, c'est l'ancien et le nouveau monde qui se rencontrent. Merci Christine Gonzalez. 17h42 sur France Inter, Olivier Duhamel est en notre compagnie. Abordons cet autre sujet car elle a un malaise, la représentation démocratique. Pour y remédier, l'idée du tirage au sort est réapparue lors du grand débat. Un tirage au sort qui viendrait compléter le vote, pas le remplacer. Parce que le tirage au sort tout seul, c'est beaucoup trop de surprises.
Je demande un volontaire pour se mettre tout nu au milieu des nudistes. Au hasard. Une poule sur un lit qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Ah bah ça c'est de la tricherie. Comment ?
de la triche.
Oh, dis donc, regarde, imbécile. Qu'est-ce que vous disiez?
Rien.
Ah, je veux que vous entendre murmurer. Dites-moi, cette nuit, vous irez préparer le terrain. Vous aurez l'honneur d'être le premier au contact de l'ennemi. Voilà, j'espère que vos camarades vous en ont dit.
Pardon, peut-être que juste un petit slip.
Le gendarme de Jean Giraud. Sur cette idée de tirage au sort, Olivier Duhamel, déjà, est-ce que la représentation nationale, elle doit être un miroir de la population?
Non, un miroir strict de la population, non. Mais quand la représentation nationale est très, très éloignée de ce qu'est la population, ça commence à poser un problème. Mmh. On a mis très, très, très longtemps à considérer que c'était un problème qui est tant d'hommes et si peu de femmes. Et ça, c'est une chose qui était relativement facile à corriger, parce qu'on distingue, à part quelques cas très particuliers, assez bien un homme d'une femme, et on pouvait mettre des règles de quotas, de parité, etc. C'est beaucoup plus compliqué à faire pour les classes populaires. Vous n'allez pas mettre un quota de caissières de supermarché, un quota de paysans pauvres, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué, et du coup, les mécanismes de reproduction des élites et d'éloignement de la diversité populaire sont importants, et c'est un problème, et c'est un des problème que peut résoudre le tirage au sort.
C'est, donc, vous y êtes favorable, vous ?
Je pense qu'on peut on pourrait introduire une assemblée citoyenne consultative dans laquelle il y a une très forte représentation tirée au sort. Je signale, parce que vous m'avez dit pendant un bref intermède que votre émission était très prescriptive de livres, ce dont je tiens à dire que je me réjouis tout particulièrement, et je vais en profiter pour vous dire qu'il y a un petit livre sur le tirage au sort qui n'est pas de moi, n'est-ce pas, c'est purement amical ce que je fais, il s'appelle Gilles Delannoy, c'est même pas un de mes potes, c'est juste un collègue qui allait à un petit livre très intéressant auprès de Sciences Po, bon là c'est vrai que c'est ma maison Sciences Po, sur le tirage au sort, et qui vous dévoile tous les différents mécanismes, les utilisations, l'histoire du tirage au sort, c'est très intéressant. On peut vraiment considérer que le tirage au sort peut apporter beaucoup, et à condition de ne pas le substituer totalement à la...
Oui, qu'il soit complémentaire au vote.
Voilà, à la représentation nationale.
Alors, on voit dans ce grand débat qu'il y a une grande aspiration à la représentativité des citoyens, mais même hors grand débat, dans le débat en général, les questions du vote blanc, les référendums locaux, les pétitions, etc. Oui. Et dans un même temps, on lit souvent des études ou des articles qui nous expliquent que les Français réclament un homme fort à la tête du pays, une espèce de père de la nation, etc. Est-ce que c'est pas paradoxal, ça?
D'abord, les Français sont absolument traversés de paradoxes. Donc, c'est pas nouveau. Dans toute notre histoire, on est à la fois le peuple le plus soumis et le peuple le plus révolutionnaire, le peuple le plus éruptif et le peuple le plus monarchiste. Il n'y a pas un pays Europe, enfin, il n'y a pas une démocratie en Europe dans laquelle le pouvoir soit à ce point incarné et dirigé par un homme. Et par un homme qui, de surcroît, ne rend compte que quand il veut et où il veut. Quand vous êtes Premier ministre britannique, on le voit par les temps qui courent, mais c'est tout le temps pareil, vous êtes obligé d'aller quasiment toutes les semaines vous expliquer devant les députés. Vous n'avez pas le choix. Et puis il y a des gens qui vous interpellent, c'est pas vous qui... En France, président de la République, je ne sais pas sous quelle forme je vais intervenir, je vais peut-être faire une allocution, ou alors si je fais avec des journalistes, c'est moi qui les choisis, si je fais une allocution, toutes les chaînes les retransmettront, les radios, si ça se trouve, vont être obligées aussi, et tout.
Il est son propre producteur.
Mais oui. Y a pas... Et puis bon, c'est un exemple, mais c'est pas le seul. Qu'est-ce qu'on a vu dans le grand débat? Le nombre de micro-demandes qui étaient adressées directement au président de la République, comme si c'était lui qui devait régler un problème de fermeture de maternité ou que sais-je encore.
C'est donc, le service client SFR.
Vous me direz, l'autre service, c'est pas terrible non plus, on fait la comparaison.
Et que quand on lit votre livre, vous parlez évidemment de votre père, grand politicien, mais vous parlez aussi des hommes politiques de l'époque, et on comprend à quel point vous estimez sans doute que la politique est un métier. Vous l'avez vu en tant que... Et vous l'avez fait vous-même. Pour quelqu'un qui débarquerait comme ça parce que tiré au sort... Ça, c'est antinomique avec l'idée que c'est un métier.
C'est un mandat ?
J'aime pas tellement mal l'idée que ce soit un métier. Mon père, ce qu'il avait de plus fort, c'était pas ses compétences, qui étaient pourtant grandes. C'était un type qui avait beaucoup de zones d'intelligence. Personne n'est complètement con et complètement intelligent.
C'est gentil, ça me rassure.
Il y a des gens apparemment un peu cons, je ne citerai personne autour de la table, qui ont des vraies zones d'intelligence. Et vous avez des gens genre Giscard d'Estaing qui ont une extraordinaire intelligence abstraite, mais l'intelligence humaine...
Olivier Duhamel.
Ce qui est plus important, ce qui était très fort chez lui, c'était l'incroyable lien avec ses électeurs. C'est à quel point il les aimait et à quel point eux l'aimaient. Et ça, c'est au moins aussi important, si ce n'est plus que la compétence. De surcroît, je vais vous dire deux choses, très vite. Quand on prend des décisions politiques aujourd'hui, le plus souvent, on les prend sur une seule colonne, dite de la rationalité. Mmh. Est-ce que c'est rationnel économiquement, financièrement, juridiquement, etc., etc. Mais c'est ça qui ne va pas. Il faut regarder une deuxième colonne, qui est la perception symbolique de la décision que je prends. Parce que vous pouvez avoir une décision très intelligente du point de vue rationnel, et complètement con du point de vue symbolique.
Les APL.
Et la troisième... Mmh. Oui, les APL, c'est un très bon exemple. Ouais. Autre exemple. Imaginez que, au lieu de supprimer l'ISF pour instaurer l'IFI, il avait dit « je réforme l'ISF ». Et qu'il ait fait exactement la même chose, mais exactement, exactement, sauf que ça s'appelait toujours ISF. Il n'aurait pas du tout eu le même problème. Ah oui. Les gens ne diraient pas qu'il faut rétablir l'ISF, il faut rétablir l'ISF, puisqu'il aurait été là.
Voilà, c'est mais pourquoi ils ne vous écoutent pas, Olivier Duhamel? Avec nous, revenons à votre premier roman, Olivier, qui s'intitule « Colette et Jacques », paru chez Plon. Juliette Arnaud nous en parle.
Et il est écrit « roman » sur la page de couverture et à la page des remerciements, à la toute fin, il y a la formule « un roman vrai ». Entre les deux, il y a Colette et Jacques, une femme, un homme, une femme, babadabada, comme dans la chanson. Colette et Jacques, Duhamel, donc, comme l'auteur. Indice. L'histoire de Colette et Jacques est beaucoup d'italique, pour des citations, afin d'en notifier le caractère véridique. Ah oui, j'allais oublier, avant même la précision concernant l'emploi de l'italique, une photo, au début du livre, un couple, une femme, un homme, elle se penche sur lui, elle est assise sur ses genoux, indice de rechef. Ah bah oui, indice, bien sûr. Pour rappel, il n'y a pas de photo au début de Tristan et Iseut, hein. Non. Parce que déjà, il n'y avait pas tellement la photo au XIIe siècle, et puis parce que Tristan et Iseut, c'est pas pour de vrai, hein, c'est un mythe littéraire. Revenons à l'italique. Pourquoi y a-t-il nécessité d'être précis? Parce que le Jacques de Colette était un grand serviteur d'État, qui s'est construit très jeune sur une injonction testamentaire de son père, qui travaillait dans le privé et qui détestait ça, et qui en gros, cette injonction était adressée à lui et à sa sœur, « soyez libres ». Jacques va s'y employer, il ne travaillera que pour la chose publique et il sera libre. Libre d'abord en étant résistant, quoique très jeune, parce que vous savez bien, la valeur n'attend pas le nombre des années. Il sera emprisonné pour ça et persistera à résister. L'occasion pour Olivier Duhamel de rappeler les mots de Maurice Schumann sur Radio Londres. L'attentat appelle l'attentat. Je pose ça là, tout le monde y réfléchit. Résistant donc, Jacques Duhamel, mais bossant son droit et son Sciences Po, et lorsque la guerre prend fin, il est de la première génération de l'ENA. Et alors, on se souvient, un peu ébahi, que ce décret, qui instaurait l'ENA, avait pour vue d'en finir, et je vous cite, « avec les concours spécifiques des grands corps garantissant l'autoreproduction des élites ». C'est amusant en 2019 de relire cette phrase, emplie que nous sommes, pour les élites. Bref, là nous sommes en 1945 et Olivier Duhamel écrit à propos de son père et de ses collègues. Ils n'étaient pas 100, ils avaient à peine plus de 20 ans, ils voulaient refaire la France et qu'on refasse le monde. Presque tous étaient entrés dans la résistance depuis 1940. C'est quand même une certaine idée de l'élite, somme toute, pour reprendre la sémantique du monsieur qui écrase de son ombre l'intégralité des débuts de la 5e et d'ailleurs de la fin de la 4e, ombre vorace qui nous fait oublier Edgar Faure, Pierre Mendès France ou Jacques Chaban-Delmas. De Gaulle, bien sûr, dont Jacques Duhamel est frappé par cette immodestie qui le pousse à considérer qu'il incarne seul la légitimité nationale depuis juin 1940. Jacques Duhamel, au contraire, c'est une certaine vision de la modestie. Quand il est ministre de la Culture, il dit, et je le cite, « je ne penserai pas au niveau de Malraux, je ne vivrai pas au niveau de Michelet, mais j'essaierai d'administrer ce ministère, car c'est cela que je sais faire. » Et ben, croyez-moi, c'est pas commun, les ministres de la Culture qui pensent de la sorte. Et Colette alors, parce qu'il y a quand même Colette dans ce titre. Colette, elle est libre aussi. Elle est amoureuse de son mari et des livres. Tellement amoureuse des livres, tellement libre, qu'elle aimera un grand écrivain, un beau hussard bleu et un éditeur. Et Olivier Duhamel, donc, un des fils de cette fratrie. Eh ben, il n'est pas dans ce livre. Ah si, 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 il y est, et ça c'est la part romanesque, il y a, en lieu et place d'Olivier, à la même date de naissance, une fille qui s'appelle Marie, qui ne partage pas toutes les opinions politiques de Jacques. C'est une enfant du baby-boom, elle a 18 ans en 68, elle pleurera la mort du Tché sans jamais perdre sa connivence avec son papa. Et ce lien intime, il me semble qu'il est au centre de Colette et Jacques, plus au centre peut-être même que Colette et Jacques eux-mêmes, mais ça n'est que mon avis, modeste bien sûr, tout comme Jacques Duhamel. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci. Le roman est donc paru chez Plon. Vous souhaitez réagir, Olivier Duhamel ?
Non, non, je dis merci. Non, plus juste, plus intense, non. Très, très différent, c'est tout. Le lien entre un père et une fille. Mais même entre un père et un fils qui s'adorent n'est pas de même nature que le lien entre au sein d'un couple entre
non mais femme. La connivence
La connivence oui les connivences c'était pas les mêmes parce que par exemple ma mère avait pas une n'était pas passionnée par la politique Marie était passionnée par la politique et du coup ils avaient une connivence sur ce terrain là je raconte dans le livre je crois que je raconte parce que parfois je sais plus ce que je assez narcissique, mais pas au point de me relire tous les jours.
On vous confirmera.
Voilà. Que quand il décide de soutenir Pompidou, et pas Poher, alors qu'il était centriste d'opposition, il y a un débat en direct, il y a un débat sur Europe 1, et il voulait que Pompidou lâche des choses sur plus de liberté et sur l'Europe. Et il avait demandé, ce qui est très normal, à son bras droit absolu, Jacques Rigaud, l'homme qui a dirigé RTL longtemps après et tout ça, d'être là, et à son fils, dans la vraie histoire, d'être là aussi, son fils de qui avait à l'époque 18 ans, même pas 19 ans, ou juste 19, et de faire à la fin de l'émission un signe comme ça, ça voulait dire
pousse vers le bas.
Pompidou a pas dit suffisamment, il faut pas appeler à voter pour lui, comme ça c'est bon, vous pouvez pousse dire que vous le soutenez. L'idée que un père puisse demander à un gosse de participer à sa prise de décision, c'est quand même assez inouï. Non ?
Et ça y est dans le livre, effectivement.
Oui. Olivier Duhamel.
Derrière vous, deux guitaristes, Olivier Duhamel. On termine toujours la semaine en chanson. C'est d'habitude Frédéric Fromet seul, mais qui est l'homme et pourquoi deux ?
Je vais vous parler du Brexit et pour l'occasion, j'ai exceptionnellement invité mon correspondant anglais.
Hello.
Il va bientôt être obligé de nous rejoindre de toute façon.
C'est vrai. Yes.
La Brexitude, c'est quand je veux rester sur mon île sous la pluie, avec l'espérance de vie de Freddie Mercury. Non, je pêche que je mettrais bien la reine dans mon lit, et ça fait mal.
Yes,
la Brexitude, c'est quand tu préfères le pudding baignant dans l'huile. C'est les Beatles qui renient la pauvre Karen Sherrill. C'est quand tu trouves que Boy George est viril. Tu vois très mal. La Brexitude, c'est qui? C'est toi.
Not me. C'est quoi? C'est beaucoup de facules dans le creux d'un avoir.
La Brexitude, c'est vous, pas nous.
Shut up, c'est you.
C'est quoi, c'est le roast beef qui nous dit fuck you. La Brexitude,
Brexitude,
c'est préférer Shakespeare à Catherine Pancol.
C'est Lady Di qui ferait la pub pour une bagnole.
C'est quand tu es le petit copain de Suzanne Boyle.
Ah, c'est vrai que ça fait mal.
La Brexitude, c'est rêver de sortir avec Theresa May.
C'est croire que Jen Birkin parle trop bien le français.
C'est quand au rugby tu nous fous une branlée.
Bon, là c'est vrai.
La Brexitude, c'est qui? C'est toi.
No, not me. C'est quoi? Oh, c'est pas bon avec une dans la Great and the Wild.
La Brexitude, c'est vous,
Frédéric.
Pas nous.
Shut up, c'est you.
C'est quoi ce le roast beef qui dit pas I love you?
La Brexitude, c'est quand tu es tout seul dans un bus à étage.
C'est quand tu trouves super sympa Nigel Farage.
C'est voir le volant à droite comme un avantage.
Ça c'est pas normal.
Je m'en fous.
C'est pas normal. La Brexitude, c'est pédaler avec les oreilles du prince Charles.
C'est préférer le cheddar fondu à du cantal.
C'est au milieu de la Manche ton Eurostar qui cale. Bien fait pour toi.
Ta gueule.
La Brexitude, c'est qui? C'est toi.
Not me. c'est quoi? Oh, c'est beaucoup de fuck you dans la Granada.
La Brexitude, c'est vous, pas nous.
Shut up, c'est you. Oh.
C'est Lady Di qui dit que ça va pas du tout.
Merci Frédéric Fromet et merci, merci à Oldelaf évidemment, qui est en tournée dans toute la France et les dates c'est sur oldelaf.com. Merci, vous amenez des amis quand vous voulez, monsieur Frédéric Fromet.
Merci Oldelaf.
Merci à vous.
Merci les amis, merci beaucoup, merci à notre invité Olivier Duhamel d'avoir passé cette heure avec nous, nous étions ravis.
Thanks to you.
Merci, merci. Merci beaucoup à la préparation à Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Rivaud, Ramzi Assadi, assisté d'Emma Ferret, alias Emma a appris à faire des stories. Merci à Anne-Sophie Ladonne, à la réalisation, à la technique, Anne-Laure Cochet, Elisabeth Collet. Le mot de la fin à Olivier Duhamel.
Vous avez dit au début que j'allais élever le niveau de votre émission.
Ouais.